J'aimerais, en ce matin du 31 décembre, vous raconter l'histoire d'une femme qui donne de la force aux autres. À croire que c'est sa philosophie, sa mission de vie, qu'elle est venue sur Terre pour ça. Toute jeune, déjà, elle consolait sa tante en se mettant à chanter. Il y a des êtres comme ça qui font du bien aux autres sans trop savoir comment. Ils ont ce petit quelque chose qui vous donne envie de lever le poing, de bomber le torse et de viser la lune. Est-ce du magnétisme, de l'empathie, de la générosité? À moins que ce ne soit tout simplement de la lucidité. Un talent pour dire les choses comme elles sont et nous inviter à aimer la vie malgré tout. Si nous attendions que la vie nous donne toutes les satisfactions pour l'aimer, nous ne l'aimerions jamais vraiment. C'est pourquoi toute vraie joie est paradoxale. Aimer la vie, c'est l'aimer même aussi. Elle donne de la force aux autres, mais cela ne veut pas dire que les forces ne lui manquent pas parfois, bien au contraire. Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes, écrit Nietzsche, a su néanmoins en libérer son ami. Voilà qui rassurera tous les amis, bons conseilleurs pour les autres, mais bien incapables de s'appliquer à eux-mêmes leurs propres conseils. Voilà qui rassurera tous les psys névrosés qui réussissent quand même à être pour les autres d'un précieux secours. C'est dire qu'elle peut parfois nous donner de la force sans la trouver elle-même. Peut-être alors qu'en consentant à sa vulnérabilité, en sachant la regarder en face, elle touche en même temps le cœur de toute combativité. Au fond, à quoi ça tient d'être pour les autres cette force de consolation? Faut-il les rassurer en leur disant que ça va aller? Ou au contraire leur dire qu'on sait que ça ne va pas, mais qu'on est avec eux, dans le dur de la vie? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une chanteuse dont le premier succès, en 2004, alors qu'elle n'avait que 20 ans, un succès monstrueux comme un raz-de-marée, a quelque chose à voir avec le principe même de notre émission. Ma philosophie est le titre de ce succès phénoménal. Habituée à remplir les zéniths de toutes les villes de France, elle nous donne rendez-vous le 29 avril prochain, accrochez-vous bien, à l'Accor Arena de Paris. Son dernier album, Minuit Une, est sorti en mai dernier. Celle qui a grandi en écoutant Aznavour nous parle de ses blessures et de la fin de l'amour, de sa grand-mère qui est partie et de la tristesse qui ne part pas. Elle est aussi à l'affiche du film Ma Frère, qui avait ému le dernier festival de Cannes et sortira le 7 janvier prochain. Amel Bent est avec nous ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie, nous allons nous demander ce que c'est que consoler et questionner ce pouvoir qu'ont certains hommes ou surtout certaines femmes de donner de la force aux autres.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé.
Amel Bent, bonjour.
Bonjour.
Alors désolé de vous repasser encore ce vieux titre qui a 20 ans, mais on ne pouvait pas s'en passer dans une émission de philosophie. Et le principe de l'émission, que peut-être vous ne connaissez pas, c'est que j'essaye de dégager la philosophie de la vie de mon invité, quel qu'il soit philosophe ou non. Donc évidemment, votre chanson nous porte.
Bah écoutez, déjà merci, l'introduction m'oblige. C'était c'est très beau de ce que vous dites là depuis le début. En fait, pendant que vous parliez, j'étais en train de me questionner. Enfin, j'ai compris sur quel terrain on allait jouer. Et je me questionnais en même temps. Parce que y a plein de questions que vous posez là dans votre introduction que je me suis absolument jamais posées. Alors évidemment, je pense que j'ai les réponses en moi.
Ouais. Mais
peut-être jamais verbalisé ou...
Bah déjà, on peut commencer pour entrer dans ce sujet de comment on donne de la force aux autres. Qu'est-ce que ça vous fait quand même d'être l'interprète de cette chanson qui marche autant depuis autant de temps et qui quand même donne la pêche à tout le monde concrètement?
Ouais.
Qui est écrit, je crois, par Diams à l'époque.
On a écrit
ouais,
ensemble.
Pardon, mais... co-écrit.
C'est bouleversant. En fait, ce que ça crée, c'est surtout un espèce de dialogue invisible. C'est-à-dire que les gens, quand ils chantent ma philosophie, ils la chantent pas juste parce qu'elle est dansante. Et je vois vraiment le récit, en fait, individuel.
Ouais.
C'est fou. Dans le regard des gens, il y a parfois beaucoup d'émotions, parfois beaucoup de colère, parfois... En fait, quand on chante cette chanson, quand je suis sur scène et que je rentre vraiment en communion avec les gens, je me rends compte... que tout le monde a une histoire et que tout le monde a ses douleurs, ses espoirs. Et franchement, c'est palpable dans une salle de concert. C'est palpable, cette sensation
ouais, c'est vrai.
De rencontrer le parcours des autres.
C'est vrai, parce que quand ça passe en boîte, que tout le monde lève le poing, en fait, c'est pas simplement un tube qui fait qu'on est content d'être ensemble. Chacun est révélé à soi-même dans sa propre souffrance, son propre parcours, et cette invitation à bomber le torse, à viser la lune, chacun la reçoit vraiment subjectivement.
Et moi, je le reçois en retour.
Ouais, mais est-ce que honnêtement, vous le ressentez toujours autant, même pour vous, ou est-ce qu'il y a un peu d'usure ?
Plus en plus.
Ah bon ?
Et bien évidemment.
Bah c'est rare.
Bah il y avait une forme d'insouciance quand même quand on l'écrit. J'ai 18 ans, donc ça sort, j'en ai 19.
Ah ouais.
Je commence à peine. Bah, j'avais déjà eu une vie bien remplie depuis l'enfance, mais en vrai, c'était le début d'une seconde vie. J'avais pas commencé la sous-lecture,
C'est vraiment dingue,
de la chanson. C'est-à-dire que là, quand elle sort, je la vis premier degré et je suis vraiment cette gamine qui rêve de défoncer des portes et de faire tomber les murs, dont je sentais vraiment le poids. Dans mon quotidien, de petite banlieusarde, etc., je voulais vraiment voir ce qui se passe de l'autre côté du périph, en fait. Et donc, je le chantais vraiment au premier degré. Et avec les années, je l'ai chanté par le prisme de des épreuves.
C'est dingue. Finalement, la chanson s'est nourrie d'un sens et d'une expérience que peut-être il y avait début qu'en partie, quoi.
Oui, au début, c'était vraiment une chanson pour me donner du courage. Ouais. C'était se donner du courage pour faire le premier pas, en fait, vers cette personne qui allait devenir la femme que j'ai envie d'être. Ouais. Et maintenant que je suis un peu plus la femme que j'ai envie d'être, forcément, la chanson, elle me bouscule ailleurs, maintenant.
Ouais, on est 20 ans après, à peu près. Vous avez 40 ans.
Vous êtes le premier à le dire comme ça.
Justement, je vais essayer de dire les choses de façon cash, parce que c'est votre façon de parler.
Oui.
Et d'ailleurs, dans votre succès, dans cette chanson Ma philosophie, il y a un truc très frontal. Vous dites les choses comme elles sont. Par exemple, dans vos textes, on va parler de votre dernier album, Minuit Une, et notamment de ce gros succès, le titre Décharge mentale, ou le titre Triste, ou le titre Pourquoi tu restes. Je trouve que votre façon d'écrire, c'est assez frontal, c'est très sincère. Il n'y a pas beaucoup, par exemple, de métaphores compliquées, de périphrases.
Pas de figure de style.
Ouais, exactement. C'est assez rare. Hein.
Parce que c'est une figure de style.
Ouais, c'est vrai.
Aussi. Finalement, c'est un parti pris artistique. C'est pas juste parce que j'ai pas les mots ou j'ai pas les tournures. Et puis franchement, j'ai full d'auteurs que j'adore et avec qui on pourrait aller plus. Mais cet album tout particulièrement, alors parfois on te dit c'est l'album de la maturité, est-ce que la musique c'est une thérapie pour vous, etc. Donc parfois tu bottes un peu en touche parce que pas vraiment à l'instant T. Et là, pour le coup, c'est vraiment un album qui a été thérapeutique. L'écriture de cet album, la création a été très thérapeutique. Donc, j'avais besoin d'être vraiment dans ma sincérité absolue. Je ne voulais pas me cacher derrière des mots.
Et peut-être que par rapport à notre sujet, le sujet de l'émission, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un aide les autres, les console, leur donne de la force. Une des premières pistes, c'est cette idée peut-être de la sincérité.
La vérité.
D'être cash et de pas contourner les choses et de dire les choses comme elles sont. On va écouter un premier extrait de Décharge mentale. Je précise que le clip a déjà été vu très vite 15 millions de fois. Et on va après parler de ce clip. Mais d'abord, on écoute Décharge mentale.
Minuit, une heure de mon lit. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Au clair de lune, je cherche la rime. Mais demain me donne le vertige. Moi, j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Rappeler la banque pour la maison, changer les rideaux du salon, gonfler les pneus de mon vélo. Il faut que je devienne écolo, aller voir mamie à l'hosto. Le temps l'a rendu moins costaude. Dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine et merde, y a plus de liquide vaisselle. Signer les carnets de liaison.
Alors Amel Bent, cette to-do list hyper simple, hyper cash. Ça a été un énorme succès, ça a pris sur le net, le clip. Je décris un peu pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous vous déchargez, vous mettez plein de choses dans des sacs poubelles en fait, et à la fin vous balancez tout, donc il y a l'idée qu'il faut s'alléger un peu, cette charge mentale.
Oui, c'est pour ça que c'est décharge et pas charge mentale le titre, c'est vraiment... Après moi la to-do list c'est vraiment un truc que je fais de moi j'ai jamais vu de psy, donc je suis devenue mon propre psy, et j'ai trouvé mes propres outils pour aller mieux. J'ai un petit terrain anxieux, je le sens depuis que je suis toute petite, et la to-do list c'est vraiment un truc j'ai retrouvé mes petits carnets même de quand j'étais en primaire où je faisais la to-do list. Il y avait des choses très concrètes, le devoir de maths dont je suis pas sûre que je vais avoir une bonne note, j'ai dit ça à ma copine untel, j'ai l'impression qu'elle était vexée, demain faut que je lui demande pardon. Donc en fait la to-do list elle m'a permis de j'ai compris que la charge émotionnelle elle était parfois beaucoup plus impactante et absorbante en fait que la charge réelle, et que parfois sûr. Dans ma tête je me fais tout un délire de petites choses qui sont peut-être pas graves, mais les unes entassées sur les autres, ça me donne la sensation que je vais littéralement étouffer. Et un soir je fais ma énième to-do list et puis je sais pas, je fais pas exprès, mais les deux premières phrases riment un peu,
ouais.
Et là je me dis putain, en vrai ça pourrait trop être une chanson. Et puis je commence à y mettre vraiment tout ce qui me passe par la tête cette nuit-là. Et j'appelle un pote le lendemain qui s'appelle Hamza Mégoire, avec qui j'adore écrire. Et je lui dis, écoute, j'ai un truc, je sais pas si c'est vraiment une chanson. En tout cas, moi, ça me fait quelque chose. Si tu peux passer à la maison, on s'en parle. Et là, je lui fais la première ébauche, comme ça. Et il a les larmes qui jaillissent, quoi. Il me dit, c'est incroyable, il faut que tu le fasses. Il me dit, je pense que ça va être super important,
ouais,
d'avoir un titre comme ça aujourd'hui, maintenant.
Ouais, pour les femmes aussi.
Ouais.
Parce que c'est une charge mentale particulièrement féminine, qui pèse beaucoup sur les épaules des femmes.
Bah, moi, je n'ai vécu que dans mon corps de femme, et avec le parcours que j'ai, qui est très... J'ai été élevée dans un matriarcat, donc de toute façon... Ouais. Je peux pas expliquer la charge mentale des hommes, parce que c'est pas quelque chose que je comprends par mon expérience. Pour moi, c'est féminin, en tout cas.
Ouais, et puis je vous interromps, parce que je sais que c'est des femmes qui vous remercient. Je sais qu'elles vous disent merci dans la rue.
Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi, donc je nie pas qu'il y a une charge mentale pour les hommes. Évidemment, je pense qu'elle n'est pas la même. Et je pense que la femme, elle cristallise, beaucoup de choses. C'est peut-être à peu près celle qui ressemble à celle des hommes, plus d'autres choses.
Et vous pensez que pour être plus heureux, il faut réussir à se désencombrer, à s'alléger ?
Mais grave. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait, mais pas seulement en musique. C'est quelque chose que j'avais jamais fait dans la vie.
Ah bon ?
Ben oui, moi, je dis jamais non. Moi, même si je suis... Je sais pas, même si j'ai la grippe et que j'ai 42 fièvres, si je reçois un texto, jamais je vais me dire « je répondrai plus tard ». En fait, je veux être à la hauteur de tout le temps, pour tout le monde. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je veux dire... après, c'est peut-être aussi une personnalité, c'est peut-être aussi... Je sais pas. Mais je ne sais pas me choisir, en fait.
Mais cet album, Minuit 1, qui est sorti en mai dernier, il est quand même assez dur, puisque il y a cette chanson un peu sur la fin de l'amour, en tout cas la peur de la fin de l'amour, pour
la
que tu restes.
La fin de l'amour.
Il y a le deuil de votre grand-mère, Mima. Donc, et puis là, vous racontez que jusqu'à un peu de temps, vous disiez oui à tout. Donc, en gros, vous avez un peu fait un burn-out, vous avez craqué, vous avez fait une déprime, parce qu'il y a eu trop. ou alors, ça va pas jusqu'à...
En fait, c'est pas un burn-out. C'est que c'est pour la première fois que je me suis ressentie.
Ouais.
En fait. C'est pour la première fois, c'est comme si je découvrais mon état, la réalité de mon état mental, physique.
Vous êtes sentie triste?
Bah, l'album, de toute façon, le point de départ, c'est le deuil de ma mamie, c'est le départ de ma grand-mère, qui symbolise pour moi, justement, la force, la toute-puissance, j'ai envie de dire même l'immortalité.
Ouais.
Enfin, moi, elle m'a gardé enfant, parce que tant qu'elle était vivante, pour moi, la mort n'existe pas, puisqu'elle est encore là, et c'est l'aînée, c'est la tôlière. Et en vrai, quand elle part, c'est comme si elle prenait mon innocence avec elle, et tout à coup, je me dis, si elle... En plus, ce qui est très spécial, c'est qu'elle n'est pas morte de quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, quand on a dit « mais s'il vous plaît, docteur, qu'est-ce qu'elle a ?»
Ouais.
Il nous a regardé, il a dit « elle est fatiguée ». Mais elle ne peut pas être fatiguée. Moi, de 40 ans de vie à ses côtés, je n'ai jamais entendu ce mot. Ce mot ne correspond pas à qui elle est. Elle n'a jamais été fatiguée. Elle a été veuve à 30 ans avec 8 enfants. Elle a bossé toute sa vie. Elle a élevé ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. En fait, elle ne peut pas être fatiguée. Et quand on me dit qu'elle est fatiguée et que son cœur arrête de battre, moi, tout de suite, maintenant, je me dis peut-être que moi aussi, en fait. Je me suis pas... Je me,
ouais.
je, je, Et là, je me rends compte que je suis épuisée psychologiquement.
Voilà, peut-être que moi aussi, je suis fatiguée, au fond.
Ah bah oui, et je l'étais.
Et c'est ça qui est beau dans cet album, c'est qu'en fait, vous êtes une figure en gros de battante, de guerrière, de la combativité. D'ailleurs, c'est ce que dit cette chanson, ma philosophie.
Mm.
Mais là, c'est comme si vous rencontriez le réel.
Ouais.
Et voilà, il y a un moment, c'est dur, quoi. Et d'ailleurs, on va écouter ce titre triste que vous avez écrit avec Vita et Vianney, et qui donne très bien la note de ce qu'on est en train de dire.
Tiens le bonheur dans mes...
Alors Amel Bent, c'est tout est dit là. En fait, je suis triste, j'ai d'habitude si souvent chanté l'espoir. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui est fait pour chanter la peine depuis toujours. Comme si vous découvriez, quelque part, rétroactivement, que dans votre invitation au fight, à la combativité, il y avait quelque chose de triste déjà, en fait. Parce que si on se bat, c'est que la vie est dure.
Ça, je le sais depuis toujours. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, même si... Bah, après, vous n'êtes jamais venu me voir en concert, mais vous allez venir.
Je vais venir à Bercy, c'est quelque chose que... Arena,
ouais. Ah, mais je vous invite. C'est quelque chose que sur scène, je dis clairement, c'est que, enfin, je veux dire, j'ai fait la paix avec ça. Moi, je dis que je suis né avec du chagrin. Je le sens depuis toujours. Je deal avec une peine, une mélancolie, et qui peut-être est justement le terreau de l'espoir qui est né en moi. C'est parce que je ressentais les choses très fort, les douleurs des autres très fort, enfin voilà, je sais pas, c'est comme ça, c'est mes capteurs captent ça en fait, chez les gens, le monde, les... J'ai cette tristesse qui prend beaucoup de place dans mon quotidien, et bizarrement, Amel, ça veut dire espoir. Hein. Ma mère m'a quand même appelé espoir. Ouais. J'ai développé une espèce de soif, de lumière, de rire, de soirée qui finit jamais. En fait, c'est mon Eldorado, c'est mon Graal, c'est ce que je recherche tous les jours, mais comme quelque chose de... J'en ai besoin pour faire la balance avec ce que je suis, je pense, profondément, c'est-à-dire triste. Je suis quelqu'un de triste à mourir.
Et ben c'est peut-être ça qui aide les gens. C'est de sentir qu'il n'y a pas de mensonge, qu'il n'y a pas d'évitement par rapport à cette tristesse. Il y a un très joli livre que je vous recommande. Vous m'avez reproché de n'être jamais venu à votre concert. Moi, je vais vous dire que vous n'avez jamais lu Clément Rosset. Et il est temps de le lire. Et comme on est le 31, on va le dire pour tout le monde. Il y a un bijou, qui est un livre de Clément Rosset, qui s'appelle La Force Majeure, qui fait 40 pages, hein, qui est assez facile à lire si on est un peu concentré et assis à une table. Et qui raconte ce que vous dites, que la vraie joie, c'est la joie lucide sur la tristesse qu'on a au fond de soi, que la vraie joie, elle est contrariée, que la vraie joie, elle est entravée. C'est pour ça qu'il dit la joie est paradoxale ou n'est pas la joie. Et à mon avis, si votre musique, votre personnalité fait tant de bien aux gens, c'est parce qu'il n'y a pas de mensonge. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on écoute un autre titre pour montrer que vous ne mentez pas. C'est Pourquoi tu restes. Alors, désolé, c'est un peu dur pour un 31, mais après, vous allez voir...
Ah non, mais là, on va rendre des gens dépressifs encore plus que ce qu'on est déjà en ce moment, tous.
Non, je crois pas. Parce que comme vous le dites tout le temps, il y a de la lumière dans le fait de regarder en face l'obscurité.
Dis-moi pourquoi tu restes. Si t'étais vraiment honnête, tu me dirais je suis pas heureux. Vaut mieux s'arrêter nous deux. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Tu vois bien que ça me blesse. Faire semblant d'aller mieux, mais c'est la fin du jeu. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes?
Alors Amel Bent, c'est vraiment un très beau titre, je le trouve franchement fort, parce que c'est rare en fait, comme on disait tout à l'heure, de dire les choses comme ça. Au fond, peut-être c'est ça qui aide les gens, c'est de pas mentir.
Franchement, c'est une question, c'est une phrase que j'ai tellement dite à mon amoureux, mais c'est pas une vraie question, hein. La vraie question sous le pourquoi tu restes, c'est pourquoi il reste. C'est quand on est très lucide sur ce qu'on dégage à un moment de sa vie et qu'on se dit vraiment peut-être je suis pas digne d'être aimé en fait. En vrai, mon amoureux, je sais qu'il m'aime à la folie. C'est pas
à la limite, ça vous surprend encore finalement.
Ouais, à cette période-là vraiment de ma vie où j'écris cette chanson vraiment. J'ouvre plus rien, en fait. Je laisse personne entraver ma relation à mon chagrin du moment, en fait. Et à la fois, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être seule avec mon chagrin pendant des mois et de me dire, je vais transformer ça toute seule. J'ai besoin de solitude. Et en même temps, je me pose ces questions-là, oui.
Mais quand on aime quelqu'un, on l'aime même quand il est fragile et faible.
Ouais, bah oui.
C'est la chanson d'Alain Souchon, là. J'espère que tu m'aimeras encore quand je serai KO, quand je serai tombé.
Bien sûr, exactement.
Et la peur qu'on a, c'est qu'on ne soit aimé que quand on est au top.
En tout cas, j'ai laissé personne rentrer dans cette bulle de douleur, et lui y compris. Et forcément, un matin, tu te lèves et tu dis pourquoi il est là, quoi.
Thank you. philosophie. Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes. Moi je lèverai le poing. Comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire. Les poings levés vers l'avenir. Lever la tête, tomber le torse. Sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. Et j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
C'était évidemment Amel Bent, ma philosophie.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Amel Bent et c'est passionnant. Amel Bent, on parle de votre dernier album, Minuit Une. Alors c'est marrant parce que ce soir, à Minuit Une, ce sera la nouvelle année. Mais c'est pas, on n'a pas pensé à ça. on va parler aussi bientôt de votre film Ma Frère, qui sort le 7 janvier. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne un peu au thème de l'émission. Parce que vous avez confié tout à l'heure un peu vos blessures, ce côté dark, mais qui fait partie de votre joie. Que j'ai envie de dire une joie de combattante. Et en même temps, il y a quelque chose en vous qui apaise les autres, qui les console, qui leur donne de la force. Alors, est-ce que vous pensez que si on doit consoler quelqu'un, il vaut mieux lui dire « Ouais, ça va aller, t'inquiète pas », ou lui dire « Non, ça va pas, mais je sais, mais je suis avec toi ».
Bah, les deux se disent selon la situation. Si ça va vraiment aller, s'il y a une chance que ça aille vraiment mieux, en étant complètement réaliste et rationnel, bah, il faut le dire, oui. Il y a aussi une chance que ça aille mieux, donc donne-toi, ouais. Accepte que ce chemin soit possible. S'il n'y a aucune chance que ça aille mieux, oui, la deuxième,
ouais, vous avez raison.
La deuxième réponse est plus adaptée.
Ouais,
plus ça ne va pas aller mieux, donc...
plus en relation, quoi.
Prends une décision. Hein. Moi, j'ai été élevée vraiment par des warriors. Hein.
Ouais, votre grand-mère, notamment bah.
Ma grand-mère, ma mère. Moi, ma mère, elle m'a, même quand j'avais mes premiers petits copains et tout, elle me donnait des conseils de guerrière, quoi. Elle me disait, si toi t'as décidé que c'était pas fini, c'est pas fini. Bon, ça fait un peu pervers narcissique.
Ouais.
C'est genre, le mec qui t'a quitté, et ma mère, elle me disait, mais on s'en fout qu'il t'ait quitté. Si toi t'as décidé que c'est pas fini,
c'est pas
fini. Ma mère, c'était le genre de conseil qu'elle me donnait. Où, en fait, elles m'ont fait croire, ces femmes-là, que tout était possible, que tant que moi j'ai pas pris une décision, bah finalement, tant qu'on n'a pas dit oui ou non, bah, tout est possible aussi pour ça.
Ouais.
Et en fait, c'est des mantras que je m'applique dans la vie. Tant que j'ai décidé que c'était pas fini, c'est pas fini. Alors, parfois, tu te prends des grands murs, parce que parfois, c'est fini.
Mais vous avez pris des murs ?
Oh ben, on en prend tous, non ? Je sais pas, non ? Des portes qui s'ouvrent pas, ou des gens qui vous déçoivent, ou... Moi, je fais encore le deuil de plein de trucs. Hein. Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pensais que je pouvais aller à la fac, obtenir des diplômes, peut-être un jour être profiler. Moi, je rêvais d'être profiler, donc étudier les psychopathes, être criminologue.
Et c'est plus possible.
Non, je suis allée à la gendarmerie. Un jour, j'avais 30 ans passés. J'ai dit, je viens juste pour vous poser une question. Est-ce que c'est... Parce qu'il faut être, consultant à la gendarmerie, en fait.
Ouais.
Et j'y suis allée pour savoir si c'était encore possible. J'avais besoin que quelqu'un me dise oui ou non, pour faire le deuil un peu de ça. Et ils m'ont dit, non, c'est 25 ans pour l'âge limite pour rentrer à la gendarmerie. Et donc, j'ai compris que jamais je serais consultante à la gendarmerie.
Parce que vous aviez commencé des études de psycho.
J'ai rien commencé.
Non, mais à l'époque, je crois.
J'ai rien commencé.
À 17-18 ans.
J'ai passé le bac, j'ai fait un bac S, j'ai adoré la physique. Ouais. Et puis j'ai eu ma place en fac de psycho et j'ai fait la nouvelle
puis,
star
succès,
en fin d'année de terminale, en fait. Donc je ne suis jamais rentrée dans un amphi.
Mais vous aviez ce projet de vous inscrire en psycho, c'est ça que je veux dire.
J'étais inscrite. Ah, voilà. J'avais eu la place à la fac de. Je ne sais plus quelle fac qui m'avait dit oui. Je crois à la fac de
Donc c'est intéressant parce que ce qu'on est en train de comprendre, c'est que vous avez eu ce succès monumental tout de suite, puis tous vos albums marchent, là c'est le 8e album, et quelque part il y a une part de vous qui se dit je vais peut-être faire autre chose quoi, un jour.
Je vous jure que j'y crois. En fait c'est ça qui me fait peur de moi à moi-même, c'est que j'ai encore la naïveté. Je vois qu'il y a des choses que je vais pas pouvoir faire, mais moi je sais pas, il y a un truc en moi qui... En tout cas, c'est ce qui m'anime. C'est de me dire qu'il y a encore quelque chose que je vais pouvoir construire. Ouais. Encore, alors qu'en vrai, je me satisfais de tout ce que je vis et des 20 dernières années. C'est incroyable ce que j'ai vécu dans ma vie. C'est inespéré. C'est pas un truc de j'aurais pu vivre mieux, faire mieux. C'est juste de se dire j'aurais pu tout faire. Je peux tout faire encore, en fait. Voilà. J'aime bien l'idée de me dire que je peux tout faire.
Vous avez été révélé au tout début par la Nouvelle Star, plus tard vous avez été coach dans The Voice, notamment aux côtés de Florent Pagny, et puis récemment vous êtes intervenu dans la Star Academy pour chanter en duo avec Ambre,
ouais.
Le droit à l'erreur. On va l'écouter parce que ça pose aussi la question de l'émission, c'est comment on donne de la force aux autres.
Je ne marche plus droit.
Alors Amel Bent, ce qui est marrant, c'est que là, pendant qu'on passe votre titre, Le droit à l'erreur, vous êtes en duo avec Ambre à la Starac. Tous les gens derrière la vitrine, là, ils sont tous en train de lever les poings, de danser, ça leur fait un effet de fou. Moi, je suis un peu moins fan, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'adore cette chanson, mais je trouve qu'elle vous mime trop.
Ah
elle vous singe trop. J'entends pas vraiment sa personnalité. Et je me dis que donner de la force à quelqu'un, c'est l'autoriser à aller vers son talent personnel. Et si on est trop dans le mimétisme, comme on peut le reprocher à beaucoup d'élèves de la Starac, à ce moment-là, on n'arrive pas à sa propre force.
Mais c'est un chemin. Il faut laisser le temps. C'est des jeunes artistes. Elle a à peine 18 ans. Moi, je l'ai trouvée quand même hyper... Enfin, elle avait beaucoup plus d'assurance que l'assurance que je pouvais, moi, avoir à son âge quand je fais mon casting à la Nouvelle Star. Franchement, c'est quand même pas la même génération. J'ai trouvé qu'elle... Je sais pas, j'ai trouvé qu'elle brillait, moi.
Après, vous avez peut-être raison. J'ai pas trouvé
du tout qu'elle me mimait, moi. Après, je sais que c'est une chanson qu'elle adore, qu'elle avait chantée à son premier casting quand elle était gosse. Et voilà. Mais moi, j'ai pas ressenti que c'était quelqu'un qui essayait de chanter comme moi ou m'imiter. J'ai trouvé qu'elle avait déjà, de toute façon, dans la voix, une personnalité.
Ouais.
Et un ADN qui était pas du tout le même que le mien. Donc, pour moi, c'est sa voix, c'était sa voix, quoi.
Cela dit, vous avez peut-être aussi qu'il faut en passer par une phase d'imitation avant de devenir soi.
Bah, quand on commence à... En fait, si on n'est pas né dans une famille de musiciens, donc de créateurs, donc on n'est pas éduqué dans cette optique de créer son propre terrain de jeu musical, et qu'on chante sur le disque, et qu'on tombe amoureux de la musique à travers la voix, l'œuvre d'autres artistes. Je pense qu'au début, c'est pareil, je pense pour les écrivains. Si vous êtes fan de quelqu'un, si à un moment on va sentir dans votre écriture au tout début du parcours que vous reprenez voilà des espèces. Ouais. En fait c'est et puis même de toute façon la voix c'est un muscle, tout ça c'est un muscle, mais c'est un muscle émotionnel et un muscle physique. Donc vous vous entraînez mais c'est en fait c'est comme dans tout. Je pense qu'un footballeur qui a regardé, je sais pas, Zidane toute sa vie jouer, il y a un moment au début, il va vouloir faire les mêmes gestes, reproduire, jusqu'à ce qu'il découvre son propre style. Elle a 18 ans.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc c'est normal qu'au départ, on voit un peu.
Moi, quand vous chantez avec elle en duo, et que vous la voyez si jeune, que ça vous rappelle peut-être vos débuts, et que vous êtes en train de chanter à deux votre titre à vous, votre tube, Le Droit à l'erreur, est-ce que vous ressentez quoi par rapport à elle?
Déjà, moi, j'adore les chanteurs et les chanteuses. J'ai une passion pour le métier de chanteur et de chanteuse. Je trouve que, enfin voilà, moi, c'est un truc qui me, c'est pour ça que j'ai accepté d'être dans The Voice. Enfin, pour moi, c'est passionnant. Moi, je pourrais écouter des voix toute la journée. D'ailleurs, c'est ce que je fais.
Ah, d'accord.
J'écoute des voix, toutes les voix, les féminines, masculines, des voix de rockers, des voix de chanteuses classiques. J'aime les voix, j'aime essayer de comprendre ce que quelqu'un a mis dans sa voix. Donc moi, déjà, quand je me retrouve face à elle, je suis presque dans une analyse de qui elle est, quel est son parcours, qu'est-ce qu'elle veut chanter, il y a quoi dans... Je suis à la fois actrice du moment parce que je suis dans le plaisir de chanter et en même temps je suis dans le plaisir d'écouter. Donc ça c'est la première chose. Et puis évidemment, il y a une projection de je me vois aussi moi plus jeune, donc
ça vous renvoie 20 ans en arrière, quoi.
Ça me renvoie il y a 20 ans en arrière, ça me renvoie à mes angoisses, ça me renvoie au moment où moi j'arrive avec mon rêve dans mon baluchon et je forcément oui je me vois aussi et voilà.
Hier encore j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu une seule.
Alors Aznavour, vous avez dit c'est l'amour de ma vie pendant qu'on l'écoutait.
Oui.
La première révélation, c'est la première voix.
Première voix. En fait, c'est la première voix qui me tape dans l'oreille, dans le cœur, dans l'âme. Je dois avoir 3-4 ans. En fait, c'est une révélation pour moi. Et je sais que ça a guidé, ça m'a guidé dans la vie.
Et ouais, et ça m'étonne pas, parce que Aznavour, il a aussi ce truc, pas de métaphore, pas de périphrase, pas de détournement. Il dit les choses. Voilà, hier encore, j'avais 20 ans. Vous voyez, il est un peu... Vous êtes un peu...
Ne me dites pas ça. Là, ça y est, je vais vous mettre 2 places pour Bercy.
J'en voudrais plutôt 7 ou 8.
Je vous donne 7 places. Non, non, moi, Aznavour, c'est... En fait, c'est un coup de foudre... La fois, je demande à ma sœur qui aime bien lire les trucs comme ça et faire des recherches dans ce sens. Elle a un peu. Ouais. Je lui dis, est-ce que ça existe les âmes sœurs? Je lui dis, je te jure. En fait, quand je suis sortie du film, j'ai été voir le film Aznavour et que j'ai découvert finalement un peu plus la vie, le personnage, enfin ce qu'il a traversé. Je suis vraiment sortie de là. Peut-être j'en dirai une folle, hein, ce que je vais vous dire. Je vous jure que j'ai eu la sensation d'être son âme sœur.
Ah bon? Et c'est d'autant plus marrant que le film montre aussi ses côtés mesquins.
J'ai pas trouvé que c'était mesquin.
Non, pas
le
seulement.
Le mot mesquin, c'est pas ce que j'ai compris.
Il y a quand même, dans le film, un parti pris de dire, voilà, il était un grand homme et aussi quelqu'un d'un peu petit. C'est quand même l'idée du film.
Ah ouais.
Par rapport à son rapport à l'argent, son obsession de la revanche dans le succès, c'est pas juste une hagiographie, c'est un film qui est ambigu, je trouve.
Moi, j'ai vu plutôt un trauma, celui de manquer, celui de vivre à nouveau un jour cette misère, cette précarité, presque comme si c'était devenu une pathologie chez lui. C'était pas de la mesquinerie.
Ouais,
pour moi, il a transformé... pour moi, c'est pas de la mesquinerie. Pour moi, c'est un trauma.
C'est intéressant.
Moi, je respecte les gens qui vivent avec leur trauma et qui font de leur mieux. Et pour moi, c'était une souffrance pour lui d'être dans ce trauma. Ça se voit. Quand il s'interdit de pleurer pour son fils, je trouve que c'est bouleversant. Et on voit que c'est quelqu'un qui est traumatisé. En fait, qui ne s'autorise plus à ouvrir vraiment, de peur de plus jamais se relever. Enfin, moi, j'ai dit, c'est mon âme sœur, vraiment, pour de bon. C'est pas que sa musique, c'est lui aussi. Mais moi, en tout cas, j'ai transformé différemment la peur de manquer.
Ouais, c'est très, très touchant ce que vous dites. J'entends bien. Mais c'est vrai que le trauma, ça peut rendre généreux. Ou ça peut rendre mesquin, les deux sont possibles.
J'aime pas le mot mesquin.
Ouais.
En fait, je l'aime
trop. J'ai
compris. En fait, j'arrive pas à associer le mot mesquin à Charles parce que j'ai toute la subjectivité qu'on a quand on est raide dingue de quelqu'un.
Vous l'appelez Charles?
Ah, moi, c'est... Monsieur Aznavour, Charles, enfin peu importe, c'est lui quoi. Non, moi c'est l'amour de ma vie. En fait, c'est un truc de fou ce qui...
En tout cas, ça vous a donné de la force de l'aimer à ce point.
Ah ouais.
Alors il y a une autre voix qui vous a donné de la force, c'est celle de Florent Pagny, qui était avec vous coach à The Voice. Alors, je vous propose d'écouter un titre de lui que j'adore, et après on va essayer de comprendre en quoi il nous donne de la force.
C'est là que je t'emmènerai sur la route, et si le soleil le savait, mais j'en doute, il viendrait. Là où je t'emmènerai, aucun doute, il s'inviterait.
Alors Amel Bent, là où je t'emmènerai.
Ouais, c'est une chanson qui me c'est étrange. Je vous disais pendant que la chanson jouait que c'est étrange que vous ayez choisi celle-ci parce que c'est tout à fait celle-ci moi qui me fait quelque chose de très particulier.
Mais je vous jure, je savais pas.
D'ailleurs, regardez, ça me monte les larmes.
Mais est-ce que vous l'avez déjà dit quelque part? Non, moi je savais
non,
pas. C'est un pur hasard.
Non, je pense que je l'ai jamais dit. Et la première saison que je fais de The Voice, moi j'ai un rapport aussi très bizarre avec Florent Pagny. C'est qu'il ressemble à mon père. Et qu'à l'époque où il balance le clip de n'importe quoi, je suis toute petite et je fais un espèce de transfert bizarre où j'ai l'impression. Et quand je le vois, parfois je dis papa carrément. Et la première fois que je le rencontre, je lui dis tout de suite. Je lui dis en fait bonjour Monsieur Pagny. Je dis je vais être très honnête avec vous, je suis très troublée. Vous ressemblez beaucoup à mon père. Et il me dit bah tu peux m'appeler papa si tu veux lui avec ça machin. Et je l'appelle papa depuis 20 ans. Et un jour on se retrouve donc coach à The Voice et j'ai la chance d'être assise à côté de lui. Et là c'est une révélation. C'est-à-dire que c'est pour de bon c'est papa.
Qu'est-ce qu'il a qui fait tant de bien?
En fait, la sensation que j'ai eue après une semaine de tournage à ses côtés, ce qui m'a valu de faire deux tours de périph' entiers en écoutant cette chanson précisément et en étant en larmes, c'est qu'en fait, pour moi, s'il y a un mot pour moi qui pourrait décrire Florent, c'est liberté. C'est-à-dire que tout à coup, il te fait comprendre à quel point t'es prisonnier de trop de trucs en toi. Lui, en fait, il a fait, lui, le chemin vers une paix intérieure où... Il est à un endroit où il est complètement libre, en fait, partout. Et quand t'es à côté de quelqu'un qui est très libre, comme ça, qui dit les choses, qui... Je sais pas, c'est tout... Tu te sens prisonnier, toi. En fait, ça te met face à tes propres chaînes, en fait.
Tu te sens prisonnier ou tu te sens possiblement libéré?
Ah bah, quand j'étais à côté de lui, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment derrière les barreaux, ouais.
Ah bon?
Ouais, et c'est ça qui m'a bouleversé. Quand on s'est quitté, j'ai dit, putain, il faut que je fasse quelque chose, en fait. Je veux un jour être libre comme lui. Et ça m'a bouleversée.
Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene también. Estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, daño psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará
C'était Rosalía et Yaritza y su Esencia pour le sublime titre La Perla.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Amel Bent sous France Inter, sous le soleil de Platon. On apprend plein de choses. Je ne m'attendais pas à tout ça. C'est très, vous dites des choses bizarres, très, très étonnantes, très touchantes. Par
des
exemple.
Choses bizarres.
Ah oui, vous dites que vous êtes libéré de vous sentir emprisonné à côté de la liberté de Florent Pagny, si j'ai bien compris. Quand vous étiez coach à The Voice, d'ailleurs, je crois que vous venez de faire en ce moment les auditions à l'aveugle,
oui,
tous les deux.
Je l'ai retrouvé.
C'est dingue de se sentir libéré en deux temps. D'abord parce que je me sens pas aussi libre que l'autre, et puis après j'ai une invitation à aller vers ma liberté.
Ouais, ouais. Et la chanson dont on parlait est une invitation, finalement. Oui. Il dit « là où je t'emmènerai », j'ai trouvé que c'était... Donc, inconsciemment, je me suis dirigée vers ce titre-là aussi, parce que finalement c'est ce que ça racontait.
Ouais, ouais, là
c'est
où
qu'il y a des gens qui vous amènent quelque part... aux endroits de vous-même, en fait, à un autre endroit de vous, sans vous faire la morale, sans vous conseiller, sans vous dire je pense qu'il y a un truc qui va pas, ou peut-être que tu devrais... juste, il est ce qu'il est, et puis si tu regardes bien, et que tu l'écoutes bien, et que tu ressens bien son énergie, c'est censé quand même te faire quelque chose.
Ouais, c'est comme si que lui soit pleinement lui-même, vous autoriser, et vous donner envie d'aller vers vous-même.
Je vais pas mieux.
Mais sans pour autant, comme vous l'avez très bien dit, sans conseil, sans leçon de morale.
Oui, parce que lui, si lui, c'est la liberté, il ne peut pas aller dans l'injonction ou dans le jugement. Il est trop libre pour ça. En fait, il est trop libre pour se permettre d'entraver la liberté des autres, d'être qui ils sont, même s'ils ne vont pas bien, en vrai.
Alors, eh ben, chers auditeurs, chères auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire à partir de demain. Là où je t'emmènerai. Il faut se laisser porter par la montée de la voix de Florent Pagny. Ouais. Écoutez, bien sûr, Minuit 1 d'Amel Bent. Je précise, Amel Bent, que vous serez à l'Accor Arena de Paris, donc c'est à Bercy, le 29 avril prochain. C'est la première fois. Vous allez évidemment remplir Bercy. Et je voudrais qu'on revienne à cette notion de transmission. Ça, c'est ça aussi, donner de la force, hein, c'est transmettre. Parce que vous avez, dans votre dernier album, un très joli titre, La Norme, où vous adressez à vos trois enfants.
Trois couplets, mes trois enfants.
Et c'est très beau pour ça. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à la chanson de Benjamin Biolay, Ton héritage.
Évidemment, ben oui.
Alors on va écouter un extrait, et après on en parle.
Quand je te vois, je me vois. La même allure, le même pas. Tu as mes dents. J'aurais voulu arrêter là. Tu seras jamais comme les autres. Du moins les autres te le diront. Du mal à garder tes amis. Beaucoup d'entre eux s'en iront. T'iras trop vite, t'iras trop loin. T'iras trop mal, t'iras trop bien. Tu feras des crises, tu feras des scènes. Tu seras dur avec toi-même. Pourquoi faut-il...
Amel Bent, et ça s'appelle La Norme.
Ouais.
Jusqu'aux angoisses.
La norme qu'on reçoit, quoi. C'est, on peut pas s'en...
Ou dans laquelle on va devoir évoluer. Les règles en vigueur. Les règles de vie, ouais. Les règles d'être.
Donc on hérite, et puis il va bien falloir l'accepter pour s'en libérer.
Ah, c'est pas comme ça que moi je l'ai perçu.
Ouais.
Pour moi, la norme, c'est l'extérieur. C'est le monde extérieur. C'est les injonctions de la société et le cadre dans lequel on va devoir évoluer avec ce qu'on est. Et tout ce à quoi ça va nous ramener, de ce qu'on est, de ce qu'on a de bien, entre guillemets, le bien normatif,
ouais.
Et ce qui fait de nous des êtres différents ou étranges ou pas comme les autres. Et tout de suite, moi je l'ai vu tout de suite chez ma fille, ma première fille, j'ai tout de suite détecté des trucs de moi que j'aime bien de moi, et puis des trucs que j'aime pas de moi. Et je me suis dit, merde, je lui ai quand même refilé ce truc-là.
Ouais.
Puis j'ai ma deuxième qui est arrivée, et pareil, à 3-4 ans, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des choses qui... Voilà. Et mon fils, c'est pas quelque chose que j'ai vu de lui, c'est quelque chose que j'ai vu de moi quand j'ai eu un garçon. Et j'ai senti la pression d'élever un fils aujourd'hui, enfin d'élever un homme, un futur homme. Et oui... T'as conscience du monde dans lequel ils vont grandir avec ce que tu leur as donné de bon et ce que tu continues de leur donner au quotidien. Il y a l'éducation, il y a l'éducationnel et puis il y a ce qu'il y a dans les gènes, quoi.
Mais vous leur dites quand même, en substance, il va falloir faire avec puisque c'est là.
Ah, mais je leur dis, en fait, à partir du moment où vous me ressemblez, c'est ça votre force. Et vous aurez au moins un référent, quoi. C'est pas grave de ressembler à personne, si vous ressemblez à votre mère, vous allez vous en sortir.
Mmh.
C'était...
C'est marrant la résonance entre donc, votre titre, donc La Norme, dans cet album Minune, et la chanson Ton héritage de Biolay, parce que lui, il dit il va falloir faire avec, ou plutôt sans. C'est quand même assez bien dit.
Bien sûr.
Ça veut dire que la seule façon de se libérer, c'est quand même de consentir à ce qu'on ne peut pas changer, quoi.
Mais évidemment. Moi, je suis complètement partisane de ça. Il y a des choses... je sais pas, ma mère, elle me disait, on se refait pas, hein.
Ouais.
Voilà, t'as été faite. Alors oui, tu peux te... On évolue, on grandit, on mûrit, on... Tout ça est bousculé. On peut déconstruire des choses et tout, mais on va pas passer sa vie à se déconstruire. À un moment, il y a aussi quelque chose au départ qui fait ce qu'on est. Mais...
Ouais.
Donc peut-être trouver les personnes qui apprécient aussi, qui savent regarder où il faut, la façon dont on nous regarde, s'entourer des belles personnes. Enfin, c'est pas forcément des belles personnes, mais des personnes en tout cas qui vous donnent vraiment la sensation d'être à votre place. C'est ça que j'explique à mes enfants. C'est... Moi, je vais vous aider pas à être quelqu'un d'autre, mais à trouver la place où on vous aimera comme moi j'ai trouvé la place où j'ai appris à m'aimer, où on m'a donné.
Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui peut être consolant, hein, parce qu'il n'y a pas de déni comme ça, il n'y a pas d'évitement de ce qui est, ta place, elle est là, et quelque part, plus tu le sais, plus tu pourras t'en libérer.
Alors, on est ce qu'on est.
Venons à votre film, enfin le film dans lequel vous jouez, donc ça s'appelle Ma Frère, c'est un film de Lisa Cotta et de Roman Guéret, dans lequel vous avez un rôle. Aussi de consolatrice d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'elles me l'ont dit. Elles font du casting sauvage et pour elles m'ont sauvagement castée puisque j'ai jamais joué au cinéma.
Elles vous ont pas
castée
dans la rue non plus.
Non, mais pour elles m'ont castée dans The Voice.
Ouais.
En fait, quand elles imaginaient Sabrina, donc quel rôle, le personnage que je joue dans le film. Elle disait, en fait, c'est trop... Elle est trop... Genre, tu vois, Mel Ben dans The Voice, c'était leur discussion. Pour elle, c'était moi, en fait. C'était comment je prends la parole, comment je parle avec les talents qui viennent.
Avec les jeunes aussi.
Avec les jeunes, ouais. Évidemment.
Il faut expliquer, juste pour qu'on comprenne, ça se passe dans une colonie de vacances,
oui.
Avec une bande d'ados. Et vous, votre rôle de Sabrina?
Il y a les animatrices et les animateurs, qui sont aussi, en vrai, de jeunes adultes, encore un peu ados, et bientôt adultes. Et puis moi, je suis la directrice du centre de loisirs, et donc de la colonie de vacances. Et puis je dois... voilà, j'ai un espèce de rôle de liant, en fait, entre les enfants, les moniteurs, les monitrices, et puis toutes leurs problématiques, celles de l'enfance à la fois chez les petits, puis celles des enfants qui deviennent des adultes chez les moniteurs. Et oui, ouais. y a, tu dois à un moment être encore dans la transmission.
Et dans l'écoute aussi beaucoup.
Et, évidemment. Mais en même temps dans la discipline aussi, parce que quand t'es directeur, directrice, t'es aussi là pour faire un peu régner l'ordre, pour que tout ça fonctionne et que tout le monde se respecte. Mais... C'est un drôle de personnage, Sabrina, mais moi j'ai bien aimé, parce qu'en fait, ce que j'ai dit aux filles, c'est que finalement, elle ressemble plus, Sabrina, à ce que je suis dans la vie de tous les jours, que finalement la Mel Bent qu'on peut voir parfois à la télé.
Bah, c'est peut-être pour ça que c'est si fort. Je crois que je me souviens que le film a été très, très bien reçu au Festival de Cannes,
oui.
Il a beaucoup ému les gens, alors il sort le 7 janvier, et peut-être qu'on vous voit finalement dans un moment de sincérité presque encore plus aigu.
Ah ben, je vous dis, je pense que je ressemble plus à Sabrina que dans le costume de la chanteuse qui t'oblige à, par pudeur, pour plein de raisons, à être un peu moins, en tout cas pas quand je chante, mais quand je m'exprime, un peu moins, un peu moins moi, pour plein de raisons. Et Sabrina, elle m'a offert l'occasion d'être moi.
Ouais, ouais.
Dans mon langage, dans ma gestuelle.
D'ailleurs, Amel Bent, votre vrai nom, c'est Amel Bent Bashir.
Ouais,
c'est intéressant, c'est aussi le thème de l'émission. Au fond, vous n'avez pas pris un nom de scène qui serait un autre nom, vous avez pris votre vrai nom. Est-ce que ça ne dit pas aussi cette démarche de sincérité dont on parle?
C'est encore plus... l'histoire, elle est encore plus jolie. En fait, moi, ma mère, quand elle... Donc, je suis une fille d'immigrée. Ma mère, quand elle arrive en France, elle s'appelle Bent Bashir. Ce qui est tout simplement, mon grand-père, le père de ma mère, s'appelait Bachir, de son prénom. Donc c'était la fille de Bachir, en fait. Il y a les fils et les filles de Bachir. C'est comme ça que ce sont les noms de mes oncles et tantes. Et quand elle arrive en France, on lui supprime, en fait, le Bent. Mais ça veut dire quoi? Bah, fille d'eux. Ouais, bon, t'es pas bourgeoise, t'es pas aristocrate, il n'y a pas de raison qu'on te laisse ton fille d'eux. Donc on lui enlève son Bent, et elle devient Madame Bachir. Et toute sa vie, c'est une blessure, en fait. Parce qu'elle, elle sait qu'elle est la fille de Bachir, c'est Bent Bachir. Et moi, cette histoire, je la connais depuis que je suis petite. Et le jour où je suis chez Sony pour nommer mon nom d'artiste, trouver mon nom d'artiste, je dis, moi, il y a un truc qui me tient à cœur. C'est que moi, ma mère, on lui en retire un bout de son nom. Et je voudrais moi reprendre ce bout-là pour faire honneur à ma mère. Et je décide de m'appeler Amel Bent. Moi, j'ai pas le Bent sur mes papiers d'identité. Moi, je suis Amel Bachir. En plus, moi, mon père m'a pas reconnu quand je suis née, ouais, donc je porte le nom de ma mère, en plus. Donc, de mon grand-père, maternel. Et je mets le Bent, comme pour rétablir une injustice. Je trouvais que c'était dingue qu'on lui ait retiré un bout de son nom. Mais là, 40
vous l'avez
ans
rétabli,
après, ouais, elle a refait la démarche et elle a retrouvé son Bent. Elle est redevenue Madame Bent Bachir. Et moi, en vrai, je pourrais, du
oui,
coup...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Mais j'aime bien, maintenant que je suis devenue Amel Bachir, ça me dérange pas.
Merci beaucoup, Amel Bent, d'avoir été avec nous ce matin sous le soleil de Platon. Je précise les dates de votre tournée. Quelques dates. Il y a une énorme tournée à partir d'avril. Le 16 avril à Lyon. Ouais. Voilà, le 17 avril à Montpellier. Le 18 avril à Marseille. Puis Nantes, Rouen, Reims, Bordeaux, Toulouse, Lille, Dijon, Bruxelles, Amiens, Orléans. Et bien sûr, rendez-vous à Paris. En tout cas, moi, j'y serai. J'ai 7 places, vous l'avez dit. À l'Accor Arena de Paris, Bercy, le 29 avril. Et toute l'équipe sera invitée, bien sûr, pour vous remercier.
En plus ou dans les 7?
Non, en plus, c'est ce que j'avais compris en tout cas.
Voilà, allez-y, venez, d'ailleurs c'est immense.
Voilà, et pour vous remercier, je vais essayer de dégager la philosophie de la vie. Voilà, ma philosophie d'Amel Bent. Écoutez, c'est un mélange d'Aznavour.
Ah là, vous faites le compte-rendu.
Voilà, d'Aznavour, okay, et de Clément Rosset. Clément Rosset, la joie contrariée, Aznavour, dire les choses comme elles sont, avec une petite touche aussi de Biolay dans ton héritage, et puis une invitation à la lucidité, à la consolation, et vous avez dit très joliment, pour consoler quelqu'un, il y a des fois où il faut lui dire « ça va aller parce que c'est vrai », et des fois où il faut lui dire « ça va pas, je le sais, parce que c'est vrai, mais je suis avec toi ». Merci beaucoup, Amel Bent. C'était un vrai plaisir de vous écouter ce matin. Et je précise à tout le monde de passer le réveillon minuit une en écoutant votre album, puisque nous sommes le 31. Merci Amel Bent.
Merci à vous, c'était super.
Cette émission a été préparée, et super préparée justement, par Estelle Gap et Louise Tempero, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Théo de Lobadère. Quant à moi, je vous dis à demain pour la nouvelle année avec Abdelmalik.